France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Théa Corler et Quentin Péchard, réalisé par Cassandre Puel et à la technique ce matin, c'est Raphaël Rousseau. C'est le troisième volet de notre série consacrée au monde face à Gaza ou Gaza face au monde. Regardez Gaza en face. Aujourd'hui, à l'heure où l'on reparle d'une solution à deux États, que reste-t-il de la Palestine ?
Nous tenons à souligner que nous sommes tout à fait prêts à organiser des élections présidentielles et législatives générales dans le courant de l'année prochaine, si les conditions appropriées sont réunies à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
La création d'un État palestinien, consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous, et le seul qui garantira la paix dans la région.
Il s'agit d'une réponse décisive aux organisations terroristes qui tentent de nuire et d'affaiblir notre emprise sur cette terre. C'est également un message clair à Macron et à ses amis. Ils reconnaîtront un État palestinien sur le papier et nous construirons ici l'État juif israélien sur le terrain.
Nous construirons ici l'État juif israélien sur le terrain, disait le ministre des Affaires étrangères Israël Katz il y a quelques jours lors d'une visite en Cisjordanie dans une colonie sauvage que l'État hébreu va régulariser comme une douzaine d'autres. Israël vit une période miracle pour la colonisation, se réjouissait l'année dernière déjà la ministre israélienne des colonies. Des ONG israéliennes dénoncent la disparition de plus de 60 communautés rurales palestiniennes depuis le 7 octobre pendant que la tension est tournée vers Gaza. Quant à Gaza, et je continue avec des sources israéliennes, l'État hébreu n'a pas d'autre choix que d'en faire un endroit où il est impossible de vivre temporairement ou définitivement. Ce sont les mots noirs sur blanc du général Yoram Eiland, ancien chef du Conseil national de sécurité, dans un entretien au journal Yedioth Ahronot le 19 novembre 2023. Israël doit frapper les usines de traitement de l'eau, ajoutait-il. Après tout, de graves épidémies rendront la victoire plus proche. Et lorsque le monde entier dira que nous sommes devenus fous et qu'il s'agit d'une catastrophe humanitaire, nous répondrons que ce n'est pas une fin, mais un moyen. Certes, Yoram Eiland n'a plus de fonction officielle, mais Benjamin Netanyahou a plusieurs fois dit qu'il examinait le plan que lui et d'autres généraux ont élaboré, visant d'abord à vider de ses habitants le nord de l'enclave. Depuis, le gouvernement israélien a approuvé en mai un plan de conquête de Gaza. Alors s'il est question à l'ONU dans une semaine de faire avancer la solution à deux États, de quel État palestinien parle-t-on, sans territoire, sans force vive? Quel sens peut encore avoir le projet national palestinien? Bonjour Xavier Guignard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politiste, spécialiste de la Palestine, chercheur associé au centre de recherche Noria. Vous avez publié en janvier aux éditions Les Arènes, Comprendre la Palestine, une enquête graphique avec les illustrations d'Alizé Depin. Bonjour Jean-Paul Chagnolo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes professeur émérite des universités, président d'honneur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranée et Moyen-Orient, auteur d'un atlas des Palestiniens, itinéraire d'un peuple sans État. Co-auteur avec Pierre Blanc d'un atlas des Palestiniens paru aux éditions Autrement, itinéraire, dites-vous, d'un peuple sans État. Alors commençons justement par une carte. Que sait-on du plan qu'Israël a approuvé début mai pour Gaza? Un plan d'expansion de l'offensive militaire israélienne, mais qui ne parlait plus seulement de raid de l'armée, mais d'occupation du territoire.
Écoutez, je crois que c'est, il suffit de lire la presse israélienne hein, pour avoir les éléments de ce plan. Je pense que l'idée, in fine, c'est véritablement de mettre en œuvre ce qu'a dit Trump il y a plusieurs semaines, c'est-à-dire en fait de chasser le maximum de Gazaouis de la bande de Gaza. Mais très concrètement aujourd'hui, ce petit territoire qui fait donc 40 kilomètres de long est fragmenté en cinq parties. La partie nord est maintenant pratiquement sans Palestiniens ou dans des conditions pas possibles. La partie sud, c'est-à-dire celle qui va du côté de la frontière égyptienne, avec un corridor qui est à quelques kilomètres de la frontière, qui est le corridor de Morag, et dans cette partie-là, il y avait une ville qui était Rafah, et une bonne partie de cette ville a été rasée. Je ne sais pas si c'est la totalité, mais en tout cas une grande partie a été rasée. C'est-à-dire qu'il y a des unités spéciales au bulldozer qui viennent détruire tout cela. Et donc ils essaient de parquer, je prends des mots forts et terribles, la population gazaoui par des ordres d'évacuation, et on les entasse dans la région de Malawi, c'est-à-dire du côté de Ran Younes, près de la mer. Et en plus, évidemment, depuis le 2 mars, il n'y a plus aucune forme d'aide alimentaire, humanitaire, médical, et ce que fait aujourd'hui l'armée israélienne, donc le gouvernement israélien, c'est donc en utilisant l'arme de la faim, c'est en fait mettre la main sur une éventuelle possibilité de distribuer cette aide tout à fait instrumentalisée, c'est-à-dire qu'en fait on ne donnera de l'aide qu'à ceux qui acceptent cette soumission, cette allégeance dans des conditions terribles, avec en plus des conditions d'insécurité, et c'est pas des tirs. On a tous les jours des dizaines de morts tout près de ces camps où il y a des possibilités de ravitaillement
sur les routes, notamment
sur les routes.
Les points de la fondation humanitaire.
Il faut souligner que c'est avec des snipers, c'est-à-dire des gens qui tirent très précisément. Il y a eu encore il y a quelques jours, on voit des enfants avec leur mère, et la mère est tuée d'une balle dans la tête. C'est vraiment quelque chose de très volontaire, et donc ça rend les conditions de vie des Gazaouis absolument impossible. Et donc, à partir de là, il y a deux hypothèses. On va continuer pendant des années à avoir des gens comme ça dans des camps enfermés. Il y a même des barbelés maintenant pour arriver à ces endroits. Ou bien, c'est une situation invraisemblable. 2 millions de gens parqués dans des camps qui sont concentrent la population. Donc, on pourrait appeler ça des camps de concentration, si je prends des termes au sens sémantique du terme. Et puis, leur dire, voilà, vous pouvez partir si vous voulez. C'est ça l'objectif qui est aujourd'hui fixé par le gouvernement.
Je précise sur cette expression de camp de concentration, c'est que vous n'êtes pas le seul à l'employer, cette expression. Des universitaires israéliens comme Menachem Klein l'emploient aussi, de petites zones contrôlées par l'armée israélienne où Israël fournirait ou contrôlerait l'eau et la nourriture. Un journaliste israélien aussi du média israélien Plus 972 ou Plus 972, ne mâchons pas nos mots, cette zone humanitaire dans laquelle l'armée compte parquer les 2 millions d'habitants de Gaza se résume en 3 mots, camp de concentration. Ce n'est pas de l'hyperbole, c'est simplement la définition la plus précise de ce qui nous attend. Je me permets de le préciser parce que les mots sont importants, et cette expression, on la retrouve aujourd'hui en Israël, Jean-Paul Chagnolot.
Oui, je sais que c'est utilisé en Israël, mais moi je prends le mot dans sa définition la plus élémentaire, c'est-à-dire qu'on concentre des gens dans des camps et dans lesquels ils n'ont plus aucune espèce de liberté, même pas celle la plus élémentaire d'avoir des soins médicaux ou de pouvoir manger, et avec des barbelés autour. Et évidemment, à chaque fois on connote ça avec la Seconde Guerre mondiale. Non, un compte concentration, on a vu en Algérie à l'époque de la colonisation, on a vu en ex-Yougoslavie, c'est un terme global qui indique très précisément...
On concentre la population.
On concentre et on les enferme. Et on les enferme pour une durée absolument indéterminée. Et avec menace de mort, si on s'en échappe ou si on s'en écarte.
Xavier Guignard, on disait, il suffit de lire la presse israélienne pour savoir ce qu'il y a dans ce plan qu'Israël a approuvé début mai pour Gaza. En réalité, il y a aussi beaucoup de conditionnels dans la presse israélienne qui parlent par ailleurs de départ volontaire des Gazaouis avec une agence, une sorte d'administration mise en place pour organiser les départs volontaires. Est-ce qu'on sait déjà si elle est effective, qui y travaille, et surtout s'il y a plusieurs versions de ce plan israélien pour Gaza?
Alors, ce que vous avez décrit, hein, que les Israéliens ont appelé l'opération des chariots de Gédéon, correspond très exactement à parquer le maximum de Palestiniens dans des fausses zones humanitaires et à détruire toute infrastructure civile dans le reste de la bande de Gaza qui serait occupée par l'armée. Il n'y a pas plusieurs plans, il y a plusieurs voix, il y a plusieurs nuances d'horreur qui s'expriment au sein de la classe politique ou des dirigeants sécuritaires israéliens. Donc il est difficile de savoir exactement jusqu'à quel point le gouvernement va s'engager dans la réalisation de ce plan. Mais en tout cas, rien de ce qui se passe sur le terrain ne dément pour l'instant ce que ce plan contient, c'est-à-dire la concentration maximum de Palestiniens pour forcer leur départ. Ce qui est évidemment l'euphémisme de l'appellation de départ volontaire, qui est le nom donné à cette administration, qui a été créée, qui est effective. On ne sait pas exactement combien d'employés civils et militaires y travaillent, mais elle existe. Elle fait suite d'abord aux déclarations du président américain qui, en parlant de la reconquête de Gaza et de sa transformation en une riviera, a en réalité ouvert les portes pour que le gouvernement israélien puisse mettre en place ce plan. Le départ volontaire, c'est aujourd'hui de préférer choisir l'exil forcé plutôt que la mort. La notion de volontariat est quand même réduite à sa portion la plus congrue dans ce cas-là. La destruction systématique de la bande de Gaza à laquelle on assiste, et j'insiste dessus puisque ce n'est pas seulement une opération militaire. Quand on détruit systématiquement les routes, les réseaux d'eau, d'électricité, les centrales électriques, les stations d'épuration ou de désalinisation, c'est bien pour rendre toute vie civile impossible dans les zones qui sont saisies par l'armée. Et c'est l'étape préalable à effectivement ce choix, qui n'en est guère un, qui va être offert à la population palestinienne de Gaza. Mourir dans ces zones humanitaires, où on le voit depuis deux semaines, la distribution d'aide s'accompagne systématiquement de tirs sur la population et de morts, ou un exil forcé. Et c'est là où on a aujourd'hui une attente, mais c'est pas le cas, où on a, les choses ne sont pas aussi claires qu'on peut l'imaginer, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ni les Israéliens ni les Américains tentent de négocier avec des pays tiers pour cet accueil forcé de Palestiniens, mais on est toujours là dans la réalisation de ce plan.
Que pèse aujourd'hui, alors on cite toujours bien sûr comme l'une des voix les plus extrémistes, messianiques du gouvernement israélien, Bezalel Smotrich, qui il y a quelques années déjà avait défini un plan de recolonisation de Gaza en donnant, disait-il à l'époque, progressivement la citoyenneté israélienne aux Arabes de Gaza, fidèles aux lois et à l'État d'Israël. C'était ses mots dans un long article qu'il avait publié il y a quelques années. Que pèse aujourd'hui ce discours-là messianique, Jean-Paul Paul Chagnolo, dans l'idée de recoloniser Gaza?
Je crois que on est comme piégé par la sémantique et par l'idée qu'on pouvait se faire de l'État d'Israël. Je veux dire par là que la difficulté d'utiliser des mots qui sont pourtant justes, comme ceux que j'ai utilisés sur les camps de concentration, en est un exemple. Alors que la réalité, elle est là, elle est complètement là, et qu'on assiste à quelque chose qui est un nettoyage ethnique avec comme finalité donc d'expulser dans les conditions que vous aviez à repréciser. Mais ensuite, on peut se dire, bon, ce n'est que certains dans le gouvernement, ce n'est que l'extrême droite, c'est Smotrich, Ben-Gvir, et donc voilà, c'est l'extrême droite qui pousse à ça. En réalité, non. En réalité, non. C'est le Likoud dans sa totalité, c'est Netanyahou, et les sondages en Israël, malheureusement, c'est terrible, mais montrent à quel point il y a un soutien dans la population. Alors, je ne vais pas donner des chiffres parce qu'ils sont très évolutifs, mais il y a des chiffres des derniers sondages qui montrent une très large majorité d'Israéliens qui sont pour qu'il y ait en fait un nettoyage ethnique avec l'idée qu'on va se débarrasser des Gazaouis.
Novembre 2024, le centre de recherche Israel Democracy Institute publiait cette enquête d'opinion selon laquelle 42% des Israéliens interrogés étaient pour le retour des colonies à Gaza. Les colons avaient été chassés. Oui, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose. Il y avait des colonies israéliennes à Gaza jusqu'en 2005 que l'armée israélienne avait fini par expulser, évacuer 8000 colons sous l'impulsion du premier ministre israélien de l'époque, Ariel Sharon. Leur maison avait été détruite par l'armée et aujourd'hui, ils comptent bien revenir.
Où vont-ils aller, les Palestiniens ?
Les Palestiniens vont aller en Égypte, en Turquie, au Canada, aux États-Unis.
Ce n'est pas leur pays.
Mais ils ont perdu le droit de vivre ici, même si c'était leur pays. C'est une guerre. Dans chaque guerre, il y a des réfugiés. Ils n'auraient pas dû commencer. Ils ont perdu le pays.
Daniela Weiss, la promotrice de la colonisation à Gaza, enfin une des promotrices de ces organisations de colonisation à Gaza, extrait d'un reportage, ces colons qui veulent reprendre Gaza, de la radio-télévision suisse en mai dernier. Jean-Paul Chagnolo, il y a des réfugiés, ils ont perdu, ils sont partis, on va reprendre leur place.
Oui, juste un mot, vous parliez de colonisation et vous avez raison, bien entendu, il s'agit de recoloniser, mais à quel prix ? C'est-à-dire que d'abord, ce qui est en train de se faire, c'est, je répète, un nettoyage ethnique avec l'idée que on expulse la plupart des Gazaouis de leur terre, car c'est leur terre, évidemment. Donc c'est ça. Alors après, c'est l'idée, effectivement, qu'on va recoloniser. Et vous avez très justement dit, tout à fait en début d'émission, que en Cisjordanie, il y a un phénomène de même nature. Il y a eu 40 000 personnes qui ont été obligées de quitter leur maison ensuite détruite. Donc on est dans cette problématique-là, et c'est tout de même très important. Puis encore un mot sur les destructions. On a aussi systématiquement détruit, l'armée israélienne, les universités, la douzaine d'universités, et les écoles. Et ça a énormément de sens. Ça veut dire qu'on tue l'avenir.
C'était le sujet de notre émission d'hier. En effet, on a beaucoup parlé de ces écoles, de ces universités qui n'avaient plus du tout de moyens de faire accéder à un minimum de connaissances tous les enfants de Gaza et les jeunes. Et la moitié de la population à Gaza a entre un jour et 18 ans. Donc, en effet, ces mots que vous prononcez, l'un et l'autre, sont dits encore une fois aussi en Israël. Et je recite ce professeur israélien de sciences politiques à l'université Bar-Ilan, Menachem Klein, qui dit que le plan ultime de ce gouvernement, c'est d'occuper toute la bande de Gaza, y rester, y tuer un grand nombre de Palestiniens et en expulser le maximum. Et le journal Haaretz d'ajouter, dans la bande de Gaza, le gouvernement de Benjamin Netanyahou rêve d'un transfert de la population palestinienne, mais c'est en Cisjordanie que ce plan, pendant ce temps-là, est déjà à l'œuvre. Xavier Guinard, Israël annonçait le 29 mai construire et ou légaliser 22 nouvelles colonies en Cisjordanie. En quoi cette décision est-elle historique, comme l'a qualifié le ministre des Finances Bezalel Smotrich, parce que des colonies nouvelles, il y en a régulièrement en Israël. Pourquoi cette fois-ci, ce serait plus lourd de sens encore que d'habitude ?
Bon, déjà par l'ampleur de l'annonce, on est régulièrement habitué depuis au moins la signature des accords d'Oslo à avoir une annonce d'extension d'une colonie existante ou de construction d'une nouvelle colonie qui normalement suscite le concert de désapprobation des pays européens mais qui s'en tiennent là. Là, on en a 22 d'un coup. Donc, en termes d'échelle, on a un changement qui est total, mais également en termes d'emplacement. Et parce que ces colonies, elles ne sont pas placées n'importe où. Et il y a notamment une zone qui attire particulièrement l'attention de ces ministres israéliens dont vous parlez. C'est une petite zone qu'on appelle E1, mais qui a un emplacement stratégique puisqu'elle connecterait Jérusalem à un très gros bloc de colonies au centre de la Cisjordanie, autour de Mahalé Adoumim, et qui couperait définitivement en deux la Cisjordanie, est exactement de la même façon que Jean-Paul Chagnolo a décrit la division de Gaza en cinq zones étanches et qui ne communiquent pas les unes avec les autres. Ce qu'on voit se dessiner en Cisjordanie, selon deux axes, le premier, on y reviendra peut-être après, c'est sur les camps de réfugiés, mais sur le second, c'est la partition totale de ce territoire pour le diviser en îlots. Et cette colonisation annoncée participe de cette, non plus de fragmentation, parce que ça on y est depuis des années, mais de fracturation de la Cisjordanie pour la condamner à être un archipel où il y a très peu de communication d'une île à l'autre.
Alors parmi ces 22 nouvelles colonies annoncées, il y en a 9 ou 10 qui sont des colonies sauvages implantées par des militants ultranationalistes religieux et qui sont régularisées.
Tu veux faire quoi ? Tu veux montrer quoi ? Que soi-disant il y a des Arabes qui vont venir ramasser des olives et que soi-disant nous on va les empêcher de ramasser des olives pour montrer que soi-disant c'est leur terre à eux. La Palestine, ça n'existe pas. La Palestine, c'est la terre d'Israël. Depuis 3000 ans, 5000 ans, ça appartient à l'État d'Israël ici. Donc personne, normalement, peut venir prendre des olives comme ça. C'est comme si j'allais à Paris, jardin des plantes, ramasser des oranges, des trucs comme ça, c'est interdit. Si c'est chez moi, et si je ne peux pas aller dans la campagne parce que je risque de me faire tuer. Pourquoi je suis armé ? Pour jouer au cow-boy, pour défendre ma vie, et celle de ma femme et mes enfants.
Ce colon israélien interrogé par le journal Le Monde en février dernier et dans la droite ligne, dans le discours de toujours, alors que ce soit les ministres Smotrich et autres, mais aussi le ministre de la Défense Israël Katz, qu'on a entendu au tout début de l'émission, qui disait « Nous construisons l'État juif ici sur le terrain ». Est-ce à dire, Jean-Paul Chagnolo, les mots ont un sens encore une fois, que pour le gouvernement, ces nouvelles colonies ou régularisation des colonies, c'est un nouveau pas vers l'annexion ? Est-ce que ce mot est employé ?
Ce mot a été à plusieurs reprises employé. Il a même l'affaire a failli se faire, si j'ose dire, avec en 2020 avec l'appui de Donald Trump. On s'attendait à ce qu'il y ait une annexion sur le plan juridique, mais qui n'a aucune valeur sur le plan du droit international. Évidemment, c'est complètement illégal. Jérusalem-Est a été annexée, mais ça n'a aucune valeur sur le plan juridique. Mais c'est vrai que sur le terrain, ils font tout pour établir. Mais c'est pas nouveau. On découvre au fond une situation qui remonte à des années, des années. Quand je dis des années, c'est des années 70 et avec une accélération dans les années 80. Sauf que cette accélération, si je puis dire, s'accélère encore davantage, se densifie, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et donc, on est dans une fracturation, comme l'a dit Xavier, ou une fragmentation. Et c'est vrai, c'est l'idée que pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de possibilité de créer un État palestinien. On va y revenir tout à l'heure, car moi, je continue à penser que c'est tout à fait possible, malgré cette fragmentation, malgré cette fracturation, même si aujourd'hui, la situation est effectivement et tous les jours plus terrible, avec quand même un élément nouveau, presque décomplexé, qu'on n'avait pas vu de cette ampleur qu'on n'avait jamais vu encore en Cisjordanie, c'est le déplacement forcé des populations et la destruction massive des lieux où ils habitent. C'est ce qui s'est passé dans la région de Jénine, et ça, c'est tout à fait nouveau. Il y a au moins 40 000 personnes qui sont aujourd'hui en errance dans le nord de la Cisjordanie.
Alors, ce sont deux sujets différents, presque, enfin, même si le but est peut-être le même à la fin, en tout cas, les deux sujets sont différents. La colonisation qui continue et s'étend en Cisjordanie, les violences aussi qui s'exacerbent. L'Agence humanitaire des Nations Unies recense une forte hausse des actes de violence. Il y a eu cette femme enceinte israélienne assassinée le 14 mai. Acte terrible, mais en 2025, plus de 220 Palestiniens ont été blessés. 44 par mois, le niveau le plus élevé depuis 20 ans. 940 Palestiniens de Cisjordanie tués par l'armée israélienne ou par les colons depuis le 7 octobre 2023. La Cisjordanie brûle. Les colons ont réussi ce qu'ils voulaient, transformer la Cisjordanie en zone de guerre totale. Ça, c'est le site d'information classé au centre. Site israélien, Zman Israel, qui le dit pour le déplorer. La Cisjordanie brûle littéralement dans le nord. Quel est, Xavier Guignard, le bilan à ce jour de l'opération Mur de Fer, menée par l'armée israélienne, après, il faut le rappeler, la tentative d'attentat contre 3 bus dans la banlieue de Tel Aviv dans la nuit du 20 février.
Je pense que vous en avez fait un résumé particulièrement saillant, et ça se déploie sur 3 paramètres. La poursuite de la colonisation de peuplement, le durcissement de l'occupation militaire et la volonté d'expulsion de la population civile de Cisjordanie. La situation déjà économiquement le 7 octobre, elle est catastrophique. L'autorité palestinienne, dont les salaires versés aux fonctionnaires assuraient environ un tiers des salaires disponibles, des revenus disponibles dans la bande de dans la Cisjordanie, sont largement affectés par la crise économique qu'elle traverse, peu ou pas versés. Le nord de la Cisjordanie, où a été détruit le camp de Jenin, était très dépendant du travail informel des Palestiniens en Israël, qui n'ont plus d'autorisation de travail depuis le 7 octobre. Donc, il y a environ un autre tiers de la population de Cisjordanie qui est au chômage forcé et qui n'a plus de revenus. Et puis, les rares poches de subsistance qui étaient les activités touristiques autour de Bethléem ou le commerce pour Hébron sont aussi affectées. Donc, on a d'abord une crise économique et sociale d'une ampleur jamais égalée depuis le début des accords d'Oslo. On a une augmentation considérable de ce qu'on appelle communément les checkpoints, qui sont tous les points d'interdiction ou de contrôle pour la mobilité des Palestiniens en Cisjordanie. Il y a eu plus de 890 nouveaux points de contrôle ou d'interdiction de route depuis 4 mois, ce qui veut très concrètement dire qu'il est à la fois extrêmement long et extrêmement dangereux pour des Palestiniens de bouger d'une ville à l'autre, de se rendre à leur travail ou d'aller à la rencontre de leur famille. Et ça contraint énormément la vie quotidienne pour les Palestiniens de Cisjordanie. Et puis enfin, il y a un déploiement de la violence à la fois des colons en toute impunité et de l'armée, qui met en place progressivement ce plan de destruction des camps de réfugiés et qui laisse les Palestiniens du nord de la Cisjordanie pour l'instant, et puis probablement d'autres villes à venir, dans un effroi total.
40 000 Palestiniens déplacés à ce jour pour mener à bien cette opération Mur de Fer dans 3 camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie. L'armée israélienne divisée des groupes de la résistance armée sans avoir pu fournir plus que de maigres preuves de sa réussite. C'est encore une fois un média israélien qui l'écrit, le média d'investigation plus ce 972 qui raconte qu'il n'y a plus une seule maison habitable dans ces endroits. Alors, vous parliez, Xavier Guignard, de la fragmentation du territoire, 850 barrières et points de contrôle recensés par l'ONU en Cisjordanie, ce qui conforte l'impossibilité géographique seulement pour l'instant d'un État palestinien, d'autant qu'à Jérusalem-Est, cette fois, l'association israélienne de défense des droits de l'homme, Iramin, a comptabilisé 154 maisons ou bâtiments détruits par les autorités depuis le début de l'année.
Dans cette maison, il y avait 5 appartements. Et à la fin de l'année dernière, ils ont détruit ces 5 foyers qui appartenaient à une même famille. En 2024, 26 maisons ont été détruites rien que dans le quartier, en une seule année. Depuis le 7 octobre, Jérusalem est oubliée. Et c'est une occasion en or pour les forces d'occupation. Elles en profitent pour faire ce qu'elles veulent.
Cet habitant du quartier Silwan de Jérusalem-Est raconte les expropriations, destructions dans ce quartier. Silwan qui compte 30 000 habitants palestiniens. L'armée a rasé en novembre un centre communautaire financé par la France et aussi les collectivités locales, pas seulement le gouvernement français, le centre Al-Boustan, avec parfois pour d'autres maisons juste un ordre de destruction scotché sur un mur, une feuille A4 avec un en-tête de la municipalité. Cette maison va être détruite, voire veuillez détruire vous-même votre maison, si j'ai bien compris un article du Monde qui racontait ces scènes-là dans les rues de Jérusalem-Est. Jérusalem-Est a été oublié, Jean-Paul Chagnolo. Comme dit cet habitant, vous parliez toujours, tout à l'heure d'annexion de Jérusalem-Est.
Écoutez, Jérusalem-Est fait partie effectivement du territoire palestinien occupé. Et c'est vrai qu'on est focalisé à juste titre sur Gaza, mais la formule qui vient d'être utilisée, c'est une occasion en or. C'est vrai que une partie des regards, car il y en a qui préfèrent regarder ailleurs quand même, à Gaza. Sur Gaza, ce qui se passe en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, c'est tout à fait important. Il faut bien comprendre que c'est une politique qui remonte à très longtemps. Ça a toujours été comme ça depuis 25 ans au moins, ou même en remontant, on pourrait aller bien plus loin dans les années 80. Et donc, simplement, là, ça se fait de manière, on va dire, décomplexée. Et on a un piège ici en Europe, c'est que on a difficulté à nommer les choses. Vous-même, à juste titre, en excellent journaliste, vous avez dû utiliser la presse israélienne pour que, effectivement, on ne puisse pas critiquer ce qu'on peut dire ici.
Mais je sais combien l'accusation d'antisémitisme est très vite brandie.
Oui, mais lorsque Netanyahou vient aux Nations Unies en septembre 2024, il parle en parlant des Nations Unies, d'un marécage d'antisémites. Vous voyez, donc c'est une utilisation, on en fait vraiment tout et n'importe quoi, même si ça peut revêtir à tel moment, évidemment, une réalité. Mais c'est le plus souvent instrumentalisé. Donc,
et Oudolmer, dans une tribune récente, l'ancien Premier ministre l'a dit.
On décrit une situation et c'est une situation qui est terrible pour les Palestiniens, qui est terrible aussi, quelque part, pour l'avenir d'Israël, car tout ça, ça ne mène à quoi? Ça mène qu'à une guerre sans fin. C'est ça qui est important de voir. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, c'est difficile de nommer. Je voudrais une phrase simplement. Mal nommer les choses, vous connaissez la formule, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Eh bien, nommons les choses telles qu'elles sont.
Le ministre israélien de l'économie, Nir Barkat, a redit il y a quelques jours lui aussi, nous ne voulons pas d'un État palestinien. Il préconise à la place un modèle d'émirat pour les Palestiniens de Cisjordanie. Alors, impossible de savoir exactement ce que ça veut dire. Il dit tous les États arabes prospères sont basés sur des modèles de tribus. Ce sont les mots qu'il emploie. Alors, la possibilité d'une administration d'un territoire palestinien par l'autorité palestinienne, qu'il s'agirait d'abord de revitaliser, à qui il faudrait redonner un rôle nouveau, comme d'aucuns le plaide à l'approche de l'Assemblée Générale de l'ONU, ça ne fait pas du tout partie, Xavier Guignard, ne serait-ce que des options envisagées par quiconque au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Vous l'avez dit, le gouvernement, dans la pluralité des voix qu'il compose, mais également la Knesset, le Parlement israélien, à l'été dernier, puis tous les sondages d'opinion que l'on peut avoir sur l'état de la position israélienne sur cette question, s'opposent absolument et totalement à l'idée d'un État palestinien. Alors, on fait semblant de pas les entendre parce qu'il faudrait sinon changer complètement d'approche, mais la réalité est celle-là. Sur le terrain, ce que l'on voit et ce que l'on entend est extrêmement cohérent. Ils ne veulent pas d'un État palestinien. Alors, une fois ça posé, il peut y avoir des modalités qui nous semblent, à l'oreille, se rapprocher d'un État et donc nous conforter que c'est finalement possible de dialoguer avec au moins une partie de la scène politique israélienne. Dans cette configuration, le retour de l'autorité palestinienne dont on parle à Gaza fait partie de ces idées. Il faut comprendre de quoi on parle quand on dit le retour de l'autorité palestinienne à Gaza. Du point de vue israélien, il ne s'agit pas du tout d'avoir une direction politique unifiée, légitime et renforcée dans son soutien populaire sur la bande de Gaza et la Cisjordanie. Il s'agit au maximum d'avoir un comité technique qui soit plus ou moins en lien avec l'autorité palestinienne pour superviser la dimension de l'acheminement de l'aide humanitaire. C'est surtout la sécurisation de ces zones que Jean-Paul Chagnolot a décrites tout à l'heure. En aucun cas, il s'agit de favoriser la formation d'un gouvernement palestinien renforcé. Or, en faisant semblant de croire que c'est ce qu'ils disent quand ils parlent d'un éventuel retour de l'autorité, on se trompe lourdement.
Je vous en prie. Je croyais que vous aviez une suite dans votre démonstration, mais même Mahmoud Abbas, qui a aujourd'hui 89 ans, qui est en poste depuis 2005 et qui s'est maintenu en l'absence d'élections, dit qu'il est prêt à organiser des élections l'année prochaine, présidentielles et législatives, mais sans qu'on sache comment il compte s'y prendre alors que Gaza est en ruine, s'il consent même à préparer la relève, sa succession, parce qu'il ne l'a jamais vraiment fait. Xavier Guignard.
Alors, libre à chacun d'errer, de croire aux déclarations de Mahmoud Abbas. Quand les conditions étaient moins défavorables en 2021 pour l'organisation d'élections générales, présidentielles et législatives, il a décidé à la dernière minute de les annuler sous couvert que les Israéliens, et c'est vrai, bloquaient l'accès des Palestiniens de Jérusalem-Est au bureau de vote. Si ça a été un motif d'annulation, regardons une seconde ce qui se passe à Gaza et demandons-nous comment peut y avoir des élections libres et non faussées dans les 12 mois qui arrivent. En réalité, c'est un engagement que Mahmoud Abbas sait devoir prendre par rapport à ses partenaires internationaux. Il y a toutes les chances du monde que ça n'arrive jamais. La priorité aujourd'hui pour les habitants de Gaza n'est pas la tenue d'élections, même si c'était une demande avant le 7 octobre, c'est simplement de pouvoir vivre dignement. Et à cette question-là, de comment il met un terme à la guerre, de comment il permet l'acheminement de l'aide humanitaire et la reconstruction de Gaza, il n'a aucune réponse, puisqu'il n'a aucun pouvoir et aucune souveraineté sur ce territoire.
Et de la même façon, Jean-Paul Chagnolot, quand l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas dit que le Hamas doit déposer les armes et ne plus diriger Gaza, comment compte-t-il s'y prendre pour l'en empêcher ?
Première remarque, c'est que c'est vrai que c'est important de revenir aux élections qui n'ont pas eu lieu en 2021. Vous imaginez si effectivement elles avaient lieu et c'était vraiment à deux doigts d'être tenues. C'est simplement que, sachant qu'il allait les perdre, il les a annulées. Les prétextes sur Jérusalem-Est ne sont que ça, que des prétextes. Et par conséquent, on est là dans une situation assez ubuesque. Il aurait dû le faire il y a 4 ans et c'est probablement l'histoire aurait peut-être connu un autre destin. Quant à ce qu'il vient de dire aujourd'hui Mahmoud Abbas, il faut bien comprendre qu'il répond à des conditions qu'on lui a posées. C'est-à-dire que, puisqu'il y a cette conférence qu'on a un peu évoquée, qui va avoir lieu la semaine prochaine à New York, Macron demande, un certain nombre de choses. Il dit, on va reconnaître l'État de Palestine, rien n'est moins sûr, mais à condition que, il y a une liste de conditions. Et parmi ces conditions, il y a une lettre qu'il a envoyée à l'Élysée il y a quelques jours, où il dit, il faudra démilitariser le Hamas, il faudra qu'il n'ait aucun rôle dans l'avenir, il faudra organiser des élections, il faudra ressourcer notre autorité palestinienne, notamment par ces élections. Bref, il est dans une situation, au fond, de réponse à des exigences qui viennent notamment de la France, enfin, ou des pays occidentaux, qui sont en fait aussi les exigences quelque part d'Israël d'une certaine manière.
Désarmer
le Hamas, c'est évidemment, c'est ça. Donc voilà, on est dans cette situation, mais il a strictement aucun pouvoir. Et puis surtout, à des moments clés où il aurait pu essayer de revenir sur la scène avec une parole forte, il ne l'a pas fait. Alors, on parle de 2021, mais depuis 2023, il aurait pu évidemment avoir des initiatives fortes qu'il n'a jamais eues. Donc il est complètement discrédité. C'est une coquille vide, sauf que la communauté internationale, entre guillemets, n'a comme seul interlocuteur reconnu que cette coquille vide.
Xavier Guignard, est-ce que la Conférence internationale des Nations Unies, qui se tiendra la semaine prochaine, a d'ores et déjà pris acte de ce qu'il n'y avait pas de discussion bilatérale possible entre Israël et l'autorité palestinienne, ou est-ce qu'elle fait comme si c'était possible ?
Je pense qu'on est dans un... En même temps, diplomatique, à la fois la prise en compte très tardive que l'actuel gouvernement israélien n'est pas un partenaire de paix, ni pour les Palestiniens, ni pour aucune partie internationale, mais que ça reste, le cadre des négociations bilatérales, la seule façon d'arriver à une solution. Et donc je ne sais pas exactement comment il compte résoudre cette équation, ce paradoxe, puisque... En réalité, prendre acte de l'impossibilité d'un dialogue de paix avec l'actuel gouvernement israélien nécessiterait d'arriver à imposer une solution politique. C'est ce que d'ailleurs demandent les rares voix dissonantes et critiques en Israël à l'égard de ce gouvernement. Quand ils regardent la communauté internationale, ils leur disent « imposez-nous une solution, imposez-nous une solution, nous ne sommes plus capables d'y prendre part ». Et il n'y a aucune volonté d'imposition. L'idée d'arriver à convaincre les Israéliens, quelque part j'allais dire, qu'on va faire leur bonheur à leur place, en leur promettant que la solution à laquelle ils s'opposent de toutes les manières possibles est finalement la seule pour leur garantir et leur sécurité et leur prospérité. Et on n'entend pas le refus israélien de s'y associer. On ne met pas non plus les moyens en face de contraintes fortes pour les enjoindre à y adhérer. Moyens de contraintes qu'on met sur la partie palestinienne en excluant tous les partis qui n'adhèrent pas à la solution à deux États, en excluant tous les partis qui ont recours à la violence. Mais ce cadre-là n'est pas appliqué à la partie israélienne qui, en quelque sorte, peut continuer à opérer et à laisser le balai diplomatique poursuivre son chemin en parallèle d'une réalité sur le terrain qui lui échappe complètement.
Le Royaume-Uni et quatre autres pays, donc le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Australie, ont sanctionné des ministres israéliens, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, accusés d'incitation à la violence. C'était il y a quelques heures, mais c'est encore très restreint comme sanction. Et pour certains pays occidentaux, ou tous ceux qui sont, en tout cas, partie prenante dans le processus, ce serait une ligne rouge, les sanctions contre des responsables israéliens, et toujours aussi cette forme d'aveuglement dont vous parliez, Xavier Guignard, la conviction qu'Israël et l'autorité palestinienne pourraient discuter.
Pour nous, il est clair que ce processus doit être mené à bien dans le cadre de négociations entre Israël et les Palestiniens, avant que nous puissions reconnaître un État palestinien. C'est cette proposition que nous défendons auprès de nos partenaires et amis européens. La reconnaissance d'un État palestinien serait un mauvais signe.
C'est ici le chef de la diplomatie allemande qui s'exprimait le 5 juin dernier. Alors vous disiez tout à l'heure, Jean-Paul Chagnolleau, moi je crois encore à un État palestinien, à la possibilité d'un État palestinien, mais comment le principe même de discuter d'une feuille de route, est-ce qu'il est envisageable et par qui ?
Écoutez, effectivement, ça paraît surréaliste. Et quand on discute de ça, j'ai un souvenir qui remonte à 23 ans. C'était en mars 2002. En mars 2002, nous sommes encore en pleine intifada. Yasser Arafat, leader de l'OLP, est complètement enfermé dans son palais, entre guillemets, de la Moukata. Il ne peut pas sortir. Il est encerclé par l'armée israélienne. Moi, j'étais témoin de ça pour plein de raisons. Et aux Nations Unies, au même moment, il y avait une résolution du Conseil de sécurité qui appelait à deux États. C'est la première fois qu'il y avait... Donc on avait ce décalage abyssal entre ce qui se passait à New York, où on parlait de deux États, et la réalité sur le terrain, où Arafat ne pouvait même pas sortir de son palais de la Moukata. Ben là, on était un peu dans la même situation. Et c'est vrai que si on regarde ce fossé abyssal, on se dit « aucune chance ». Sauf que si la communauté internationale ne tente pas malgré tout ce qu'elle essaie de faire, par exemple au mois de, enfin la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser faire ce qui est un nettoyage ethnique et ce qui est en fait à terme quelque chose de dramatique pour tout le monde, y compris pour les Israéliens à terme, c'est-à-dire une guerre sans fin. Comment voulez-vous rester dans une situation où il y aurait, faut le rappeler, 7 millions de juifs israéliens, 7 millions de Palestiniens, en comptant les 2 millions Palestiniens citoyens de l'État d'Israël et de moins en moins citoyens de l'État d'Israël. Donc on est dans un rapport démographique qui celui-là. Donc, il faut tenir compte non seulement du rapport démographique, mais bien sûr des droits légitimes des uns et des autres. Et donc, du droit à l'autodétermination des Palestiniens. Et si on s'enferme dans cette situation qui récuse tout ça, on va vers quoi? On va vers des camps de concentration à l'infini, des violences à l'infini, etc. Donc, la seule solution, même si elle est apparemment impossible aujourd'hui, c'est les deux États. Donc, il faut poser au moins ces principes de manière forte. Et j'ajouterais que, bien entendu, si on voulait aller plus loin, malheureusement, il y a beaucoup de lâcheté dans la communauté internationale, et en Europe en particulier, il faudrait imposer des sanctions. Effectivement, des gens comme Elie Barnavi disent « aidez-nous ». Aidez-nous, ça veut dire quoi? Ben, pousser les choses, mais les sanctions, on ne veut pas le faire. Alors que dans quelques temps, dans 6 mois, dans 1 an, 2 ans, on s'apercevra à quel point nous étions une séquence inouïe de violence et d'inacceptabilité à tous égards, sur le plan éthique comme sur le plan juridique.
وما بعتوا ترابي
Le chanteur palestinien Mohamed Assaf, un représentant important de la culture palestinienne dans le monde arabe. Il a été notamment ambassadeur de l'UNRWA, cet office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Il a grandi dans la ville de Gaza, où il arrive avec ses parents lorsqu'il a 4 ans. Et ce titre, Gaza et Laza, la fierté de Gaza, est sorti en janvier 2024 pour rendre hommage à sa ville d'enfance. Il dit « Depuis mon enfance, j'ai grandi sur ta terre, Gaza, endurant la douleur sans jamais vendre ma terre. » Vous écoutez Culture Monde, notre série « Regardez Gaza en face aujourd'hui, que reste-t-il de la Palestine ?» Malgré les projets de destruction énoncés comme tels au plus haut sommet de l'État en Israël, il y a d'autres plans qui sont avancés, des plans de reconstruction de Gaza, notamment par les pays de la Ligue arabe.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
L'Égypte a travaillé en coopération avec l'État de Palestine et les institutions internationales pour former un plan global pour la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacement des Palestiniens. Je suis convaincu que le président Trump est capable, à la lumière de notre volonté sincère, de parvenir à la paix dans notre région.
Le général Abdel Fattah al-Sissi, juste après que le pays dont il est président, l'Égypte, ainsi que les autres pays de la Ligue arabe, eurent annoncé début mars un plan de reconstruction de Gaza par les pays arabes. Un plan relativement détaillé sur le plan technique. Les pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, financeraient cette reconstruction en plusieurs étapes, mais plus flou sur des modalités, disons, plus politiques. Bonjour David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique, spécialiste du Moyen-Orient et de la péninsule arabique. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Comment les pays arabes, à l'origine de cette proposition, envisagent déjà, j'ai envie de dire, la reconstruction de Gaza? Quelles étapes sont détaillées, en tout cas, dans ce plan?
Oui, alors il faut rappeler que ce plan a été présenté lors du sommet du Caire, hein, du 4 mars, qui, en fait, il se veut un plan alternatif à la proposition spectaculairement scandaleuse qui a été formulée hein, quasiment un mois, jour pour jour avant, par le président Donald Trump, qui évoquait la Riviera du Moyen-Orient avec effectivement une reconstruction préalablement le déplacement des populations à l'extérieur de l'enclave. Et le plan présenté comme plan arabe, en fait formaté par l'Égypte, hein, effectivement, comme vous le rappeliez, c'est un plan de reconstruction de Gaza qui se veut d'une certaine manière une contre-proposition en réalité au plan évoqué par Donald Trump de reconstruction d'ici 2030 sans déplacement à l'extérieur de la population. Alors vous évoquez une dimension technique, effectivement, il prévoirait deux phases de 2x2 ans. Avec un financement donc de 53 milliards de dollars, financement évidemment très largement effectué par les pétromonarchies. C'est pas l'Égypte qui peut financer, même si l'Égypte a formaté et que des entreprises égyptiennes seraient mobilisées. Mais en réalité, le financement évidemment, ce serait essentiellement les pétromonarchies du Golfe. Et là, on retrouve un certain nombre de conditions qui sont politiques et plus techniques, puisque lors de la présentation de ce plan, les principaux contributeurs supposés, en l'occurrence Arabie Saoudite et les Émirats, avaient dit qu'il n'y aurait pas de financement international majeur pour la reconstruction si le Hamas restait un facteur politique, je cite, dominant, contrôlant le territoire. Et donc c'est la quadrature du cercle, et on retrouve la question effectivement de la mise à l'écart du Hamas comme condition préalable à la réalisation possible d'un tel plan.
Même si le Hamas avait salué d'ailleurs ce plan de reconstruction de Gaza, alors que il était mis à l'écart de ce plan, il appelle ce plan à unifier les Palestiniens au sein de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. La bande de Gaza serait administrée pendant une période transitoire par un comité de technocrates palestiniens avant que l'autorité palestinienne n'en reprenne le contrôle. Et comme le Hamas est toujours là, ça rend tout ça bien hypothétique, en tout cas juste en termes de discussion. Simplement sur ces étapes dont vous parliez, David Rigoulet-Rose, à la fois de reconstruction, de déblaiement d'abord, puis de reconstruction, où seraient logés les Palestiniens pendant ce temps?
C'est effectivement, il y a une zone de un point d'interrogation, parce que vraisemblablement, il faudrait effectivement construire un système de prise en charge, élaborer un système de prise en charge avec des milliers de tentes dans une zone qui serait effectivement définie préalablement pour pouvoir effectuer, comme vous l'évoquiez, d'abord un déblaiement, qui prendrait beaucoup de temps compte tenu de la destruction de l'enclave avant même d'envisager une reconstruction. D'ailleurs, Mike Huckabee, qui est l'ambassadeur américain très pro-israélien, évoquait le fait que ce plan n'était pas réaliste parce que de toute façon, pour déblayer et avant même de reconstruire, il faudrait prévoir une décennie. Donc, il y a un télescopage entre les éléments techniques et la dimension politique, évidemment, du problème. Vous évoquez le comité temporaire technocratique qui serait supposé administrer pendant 6 mois l'enclave avant un retour attendu de l'autorité palestinienne, justement, et une marginalisation du Hamas. Mais on en est très loin, et on en est d'autant plus loin que, de toute façon, quand bien même cette autorité palestinienne serait revitalisée, réformée, comme demandé par notamment le président Macron, il se trouve que du côté israélien, de toute façon, il y a une obstruction avérée, puisque le Premier ministre avait dit dès décembre 2023 que pour l'enclave, il n'y aurait ni le Hamastan, ni le Fatahastan. Donc, de toute façon, il y a une hypothèque de base qui est, pour l'instant, le maintien de la présence du Hamas, qui, en tout état de cause, ne peut pas envisager son désarmement.
Les États arabes à l'origine de ce plan, est-ce qu'ils se contenteraient d'après ce plan qui reste, comme on l'entend bien, hypothétique, mais qui a le mérite d'exister, d'être intéressant à regarder dans le détail, est-ce qu'il se contenterait de verser des fonds, ou il se propose aussi, pour d'autres responsabilités, des médiations, une ingénierie politique, comme on dit ?
Oui, il y aurait l'idée, en tout cas, effectivement, évoquée, de forces arabes, potentiellement, qui pourraient aider à la sécurisation du territoire, voire à des forces internationales. Mais là, on retrouve de toute façon l'obstruction du gouvernement Netanyahou qui n'est pas prêt à envisager une telle configuration. Et chose intéressante, juste après la proposition scandaleuse du président Trump, il y avait l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Youssef Al-Otaiba, hein, qui le 12 février, donc une semaine après la proposition du plan Trump, avait dit qu'il voyait pas d'alternative à ce qui était proposé, sous-entendu, au plan Trump. Et que si quelqu'un en avait une, elle n'avait pas encore fait surface. Et c'était tout le défi, justement, de la proposition du plan égyptien qui était formulée début mars. Mais toutes les hypothèques sont loin d'avoir été levées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore un flou qui persiste sur la faisabilité d'un tel plan.
Et on sent aussi que l'Égypte marche sur des œufs. Abdel Fattah al-Sissi, il s'est quand même risqué à dire que Donald Trump était capable de parvenir à la paix dans la région et même à l'y encourager. Il faut dire que l'Égypte reste première bénéficiaire de l'aide américaine. Peut-être pour conclure, David Rigoulet-Rose, la participation des Saoudiens à ce plan de reconstruction, est-ce qu'elle donne déjà une idée de sa position dans la perspective de la conférence internationale de la semaine prochaine, où elle devrait jouer un rôle important ?
En tout cas, le Royaume d'Arabie Saoudite est le focus central de toute cette matrice régionale, tout simplement parce que avant le 7 octobre, il y avait l'idée d'une normalisation qui a été évidemment différée, compte tenu des conséquences de la guerre à Gaza, mais le royaume, Mohamed bin Salman, est le personnage central. C'est lui qui peut effectivement articuler quelque chose, et c'est pas un hasard s'il est dans le binôme justement franco-saoudien prévu pour la semaine prochaine. D'abord parce que c'est un, en termes de financement, c'est l'Arabie Saoudite est incontournable, et en termes politiques également, par rapport à une problématique d'horizon politique palestinien, c'est évidemment l'Arabie Saoudite qui est l'élément central de la dynamique régionale aujourd'hui.
Merci beaucoup David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Un mot pour réagir, Xavier Guignard, Jean-Paul Chagnolot. D'abord, c'est vrai que parmi les hypothèses qu'on évoque à 6 jours de cette conférence en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, on dit que l'une des conditions serait que l'Arabie Saoudite reconnaisse Israël. Mais une des conditions à quoi et pourquoi celle-ci, Jean-Paul Chagnolot? Ça paraît, pour l'instant, on a l'impression d'en être très très loin.
On en est très loin, parce qu'il n'est pas question que l'Arabie Saoudite aujourd'hui reconnaisse évidemment l'État d'Israël, ou se situe dans les accords d'Abraham, ce qui aurait été le cas avant octobre 2023. Donc il est évident que ça peut s'analyser comme une perspective, à condition qu'Israël, après tout, on revient au plan saoudien, qui était au fond à condition que Israël reconnaisse les résolutions des Nations Unies et accepte l'idée d'un État palestinien. Donc vous voyez qu'on en est très loin, mais c'est un jeu très fort. Je voudrais juste rajouter deux remarques brièvement. La première, c'est que ce qui se joue actuellement, c'est la diplomatie. Or, la diplomatie n'a aucune chance d'aboutir si elle n'établit pas un vrai rapport de force, qu'il s'agisse des États arabes ou des Européens. Si on n'établit pas un rapport de force avec Israël, il n'y a aucune chance que la voix diplomatique soit véritablement entendue. Deuxième remarque, c'est qu'évidemment, il faut prendre en compte ce que va dire Washington, car la clé, une fois encore, elle est à Washington. Puis troisième point, très brièvement, à terme, on n'a pas encore cité cette formule, mais on n'a pas évoqué la Cour pénale internationale. Il ne faut pas oublier que des mandats d'arrêt ont été lancés par la Cour pénale internationale à l'encontre de Galland, l'ancien ministre de la Défense, et de Netanyahou. Il faut rappeler que les crimes dont ils sont accusés sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles et que par conséquent, quel que soit le temps qui va passer, eh bien, il est possible que ces gens-là soient un jour traduits devant la Cour. Et il y en aura d'autres, sûrement, car il y a aussi des mandats d'arrêt qui ont été lancés de manière secrète.
On développera ce sujet demain dans notre émission qui sera consacrée spécialement à ce que le droit international humanitaire ne fait pas à Gaza. Pour conclure, Xavier Guinard, parler de l'Arabie Saoudite d'emblée quand on évoque ce sommet à venir la semaine prochaine, c'est déjà ne plus considérer une question israélo-palestinienne seule, mais l'élargir à une question israélo-arabe. Est-ce que ça vous paraît judicieux ?
Il y a plusieurs façons de regarder l'association franco-saoudienne à la tête de ce sommet. La première est qu'il y a un besoin d'une initiative euro-arabe dans un moment où ni le gouvernement israélien ni l'administration américaine sont des partenaires fiables pour avancer sur la paix et sur la revitalisation des arènes multilatérales. L'Arabie saoudite, effectivement, est régulièrement vue comme le carnet de chèques de toute solution politique dans la région, quand bien même, ils le disent et le répètent, ils n'investiront pas à perte, c'est-à-dire qu'ils ne participeront pas à un effort au-delà de l'aide humanitaire, de reconstruction, si ça ne s'inscrit pas dans une solution politique, tout simplement parce que c'est voué à être détruit lors d'une prochaine guerre à Gaza. Quant à la normalisation qui, effectivement, était à l'agenda avant le 7 octobre, je pense qu'on se méprend en considérant que c'est juste un horizon repoussé. L'Arabie saoudite a très largement changé son braquet et sa compréhension du rôle qu'Israël joue dans la région, et pas simplement à Gaza et en Cisjordanie, mais je pense que l'Arabie saoudite, comme tous les États de la région, observe aussi les agissements d'Israël au Sud-Liban et en Syrie. Syrie qui fait partie aujourd'hui des enjeux stratégiques pour l'Arabie saoudite et dont une des causes de la fragilité aujourd'hui est la poursuite des bombardements et l'extension de l'occupation israélienne.
Merci.
Donc le rapprochement...
Oui, pardon.
N'est pas pour demain.
Le rapprochement n'est pas pour demain. Je vous remercie d'avoir tous les deux participé à cette émission. Xavier Guignard, Comprendre la Palestine, une enquête graphique. Votre livre a paru aux éditions Les Arènes. Jean-Paul Chagnolot, cet atlas que vous avez co-écrit ou co-réalisé avec Pierre Blanc, un atlas des Palestiniens, itinéraire d'un peuple sans État, aux éditions Autrement. Merci à tous les deux d'avoir été avec
Merci
nous.
À vous.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous avez ouvert ce matin, Catherine, la presse du Paraguay, paradis de l'énergie bon marché pour les crypto-monnaies.
Mais un enfer pour des habitants qui ont perdu le sommeil à cause du bruit généré par une ferme de minage de Bitcoin, comme le décrit le média paraguayen El Surtidor dans une longue enquête également relayée par le Pulitzer Center aux États-Unis. El Surtidor explique comment générer de la crypto-monnaie, traiter, sécuriser, valider l'ensemble des transactions avec des formules mathématiques et informatiques complexes nécessite des installations d'envergure. Une activité très énergivore, souligne également le journal paraguayen ABC, est beaucoup trop bruyante donc pour les habitants du quartier de Santa Lucía dans la ville de Villarrica, dans le sud du Paraguay. La première fois qu'Irene Brizuela a entendu ce bourdonnement incessant, c'était en juin l'an dernier. Elle a cru à un essaim d'abeilles. Pour elle, ce n'était qu'un bruit. Mais pour son fils de 5 ans, atteint de troubles du spectre autistique non-verbal, cela a déclenché une crise. Il s'est mis à pleurer et à trembler, se souvient cette infirmière paraguayenne de 32 ans. Et c'est ainsi qu'elle a vécu avec son fils et son mari à 200 mètres de cette ferme Bitcoin qui appartient à la société canadienne Bitfarms. Elle est cotée en bourse à New York et à Toronto, précise America Futura. Impossible de dormir également pour José Luis Figueredo, un comptable qui a commencé, lui, à prendre des somnifères. Il habite à 800 mètres de la ferme de minage de crypto-monnaie et pour lui, le bruit ressemble à celui d'un camion tournant 24 heures sur 24 à l'intérieur de sa maison, raconte El Surtidor. Sa santé mentale a été sérieusement affectée, poursuivent le média paraguayen et El País, au point que José Luis s'est dit qu'il allait poser poser une bombe pour faire sauter toutes les lignes électriques et mettre la ferme de Bitcoin à l'arrêt, qui n'a rien de bucolique, hein, vous l'aurez compris.
Oui, cette installation est gigantesque.
Cette ferme, cette usine, se trouve en hauteur du quartier de Santa Lucia, sur une colline, et s'étend sur 5 hectares, avec des hangars, des barbelés, des portails noirs, un poste de sécurité. À l'intérieur, plus de 16 000 processeurs, des supercalculateurs qui génèrent donc du Bitcoin, indiquent El Surtidor et America Futura, qui se fondent d'ailleurs sur un rapport officiel de la société Bitfarms. À elle seule, cette installation au Paraguay consomme en 6 mois l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de plus de 47 000 familles. L'usine dispose également d'un système de prévention de surchauffe des machines. 14 000 d'entre elles sont refroidies par des ventilateurs et extracteurs d'air chaud, et c'est ce bruit qui a gêné les habitants du quartier de Santa Lucia jusqu'à ce qu'ils obtiennent du parquet qu'il inculpe le responsable de Bitfarms pour nuisance sonore. Car selon l'OMS, pour se reposer, le bruit ambiant ne doit pas dépasser les 40 décibels, des limites largement outrepassées par la ferme Bitfarms, avec 75 décibels mesurés à 11h un matin de juillet dernier. Une pollution sonore lourde de conséquences, comme l'ont prouvé les revues scientifiques de Lancet et l'International Journal of Environmental Research and Public Health. L'exposition au bruit en continu provoque anxiété, dépression, privation de sommeil et même des troubles cardiovasculaires. Aujourd'hui encore, certains habitants de Santa Lucia souffrent de stress post-traumatique, alerte El País.
Et la presse révèle des irrégularités dans les autorisations initiales accordées à l'installation de cette ferme de bitcoins au Paraguay.
Dans ce pays d'Amérique du Sud qui n'utilise pas toute sa production électrique et transfère même ses excédents au Brésil voisin, les mineurs de crypto-monnaies y voient un nouvel Eldorado. Et la municipalité de Villa Rica a accordé des permis à 8 sociétés de minage de crypto-monnaies dans des zones résidentielles ou commercial, explique El Surtidor et America Futura. Sans compter donc l'entreprise canadienne Bitfarms qui a pu s'installer à moins de 50 mètres des maisons. Alors que le compte du président paraguayen Santiago Peña a été piraté avec la diffusion d'un faux message annonçant le Bitcoin comme monnaie légale du pays, hier, rapporte le quotidien La Nación et l'agence Bloomberg, le département paraguayen de l'Alto Paraná, frontalier du Brésil et de l'Argentine, est la principale destination des investissements de minage de crypto-monnaies tout près d'un barrage hydroélectrique. Mais l'augmentation récente du prix de l'énergie pourrait bien entraîner la délocalisation de ces activités vers d'autres pays, analyse El País, notamment vers la Bolivie, où l'électricité est moins chère mais plus polluante car issue d'énergies fossiles qui contribuent au dérèglement climatique. Quant au PDG de l'entreprise Bitfarms, il veut réorienter ses investissements vers l'Amérique du Nord, où Donald Trump encourage l'essor des crypto-monnaies, dont il profite aussi, je l'ai déjà dit dans cette chronique. Mais aux États-Unis également, la présence de fermes de minage de bitcoins constitue une nuisance sonore. Le bourdonnement constant des ventilateurs qui refroidissent les ordinateurs de ces centres de données rend fou les Américains, titre le magazine The Week. Voilà, le Guardian relaie ce bruit enregistré par un habitant dans l'est du Texas, tout près d'une ferme de bitcoins. Un bruit qui va s'accentuer sous la présidence Trump, prévient également la BBC, notamment dans les zones rurales aux États-Unis qui ont voté pour le président républicain.
Merci beaucoup Catherine Dutu.